Blog Talk Radio.
Bonsoir frères et sœurs, ce qui nous regardez en direct de chez vous. Nous sommes donc en direct sur TV de Vie. On est mardi 2 juin 2015. Donc nous sommes heureux de pouvoir, enfin je suis heureux parce que je suis tout seul sur le plateau, de pouvoir partager la parole avec vous ce soir. Je vous invite tout d'abord à la prière. Seigneur Jésus, je veux ce soir bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire, Jésus. Tu es mon Dieu, Seigneur, et nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, à chaque instant. Seigneur, j'ai besoin de ta présence dans ma vie, Seigneur, dans ce monde qui est troublé, Jésus. J'ai besoin de ta paix en moi, Seigneur mon Dieu, mon roi. J'ai besoin que tu me diriges, que tu me guides, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que la vie est difficile, elle est compliquée, Seigneur, mais je sais que tu es le Dieu, mon Dieu, mon roi, qui combat pour nous, Jésus. Je sais que tu es le Dieu de la victoire, Seigneur, et avec toi, nous ferons des exploits, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, mon Dieu, moi, pour les promesses que tu nous as faites et que tu vas tenir, Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Ô Dieu, je veux t'honorer, Seigneur Jésus. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, mon Dieu, moi, parce que toi seul mérites la gloire, Jésus. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié encore ce soir, Père. Ô Seigneur, c'est une joie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de pouvoir encore te parler, Seigneur, librement, dans ta présence, Seigneur. Reçois toute la gloire, mon Dieu. Merci, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ah, merci, Seigneur. Merci, merci à vous, donc. Et je donne juste une petite information. Donc, à partir de demain, donc, le Chora part au Canada. Donc, il prendra l'avion dès demain. Donc, il se rend avec... avec joie vers les frères et sœurs du Canada et aussi des États-Unis. Donc que Dieu soit béni pour cette mission. Donc soutenez-nous aussi, que ce soit TV de Vie et aussi pour Chora et l'équipe qui part avec lui dans la prière. Nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin de vos prières. Il y a beaucoup de combats, comme vous le savez. Ce n'est pas évident défendre la vérité. Et c'est vraiment difficile, mais en tout cas, nous avons besoin vraiment de vos prières. Portez-nous encore dans la prière. Je sais que certains le font, mais on vous demande vraiment de prier pour nous. Et merci aussi aux frères et sœurs du Canada et des États-Unis. Prochainement, il y aura d'autres missions. On vous les annoncera aussi sur TV de Vie. Il y a beaucoup de demandes partout dans le monde, en France, en Europe. Il y a énormément, énormément de personnes qui se lèvent parce qu'ils se rendent compte qu'ils vivent dans la Babylone depuis des années et ils sortent de Babylone. Et c'est vraiment une grande joie que de pouvoir se rendre compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde vraiment aime Jésus, veut en tout cas honorer Jésus, veut aimer Jésus, veut suivre Jésus, quel que soit le prix que cela coûte. Je crois que nous sommes la dernière génération sur cette terre. Le monde va mal, comme vous le savez, et le monde va dans le mur. Il n'y a pas d'espoir sur cette terre. Et notre seul espoir, c'est en Christ, c'est vraiment d'aller au ciel, et c'est une joie vraiment d'en parler, que de se dire qu'un jour, prochainement, bientôt même, je crois, nous nous retrouverons au ciel avec Jésus, dans la paix, dans la joie, et sans aucun problème, plus de pleurs, plus de deuil, nous dit la parole. Donc voilà, soyons en paix en tout cas par rapport à ces choses, attendons-les, persévérons tous ensemble, et avec Jésus, on y arrivera. Donc ce soir, je vais vous partager un petit passage rapidement, et puis on va voir comment le Seigneur nous conduit. Je vais lire d'abord deux versets, donc dans Romains chapitre 12, à partir du verset 17. Donc l'Épître aux Romains chapitre 12 au verset 17 et 18. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi appartient la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Donc c'est un premier passage que nous allons lire. Et le deuxième, c'est dans, vous connaissez, je pense, pour la plupart, tous ce passage, dans Hébreux, donc chapitre 12 au verset 14. Hébreux chapitre 12 au verset 14. La parole nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et je voudrais partager par rapport à ces deux versets ce soir. Comme je vous le disais, le monde actuel, vous le voyez, vous le sentez, on le voit tous les jours, on parle de guerre, de bruit de guerre, il y a des famines, il y a des tremblements de terre. Il y a des maladies nouvelles, des maladies qui évoluent. Il y a beaucoup de troubles dans ce monde. Il y a des tornades ici et là, il y a des grandes tempêtes. Et on sent que le monde est vraiment secoué. Les statistiques le prouvent d'ailleurs. Il y a de plus en plus de tremblements de terre. En tout cas, la nature est de plus en plus secouée et se déchaîne de plus en plus contre l'homme. Alors l'homme va essayer de trouver des réponses à ces questions en bâtissant des maisons de plus en plus solides, en essayant de se protéger de la mer, en essayant de se protéger du vent, en essayant de se protéger du feu et de toutes sortes de cataclysmes qui peuvent arriver, mais nul ne peut échapper à ce genre de choses. Et il y a eu encore récemment un grand tremblement de terre à Katmandou et au Népal. Il y a eu énormément de morts et de blessés. Quelques jours après, il y a eu une autre secousse encore, une réplique sismique. Et il y a eu encore beaucoup de personnes qui ont été tuées. Donc on ne se réjouit pas du tout de ces choses, au contraire. Et en même temps, on doit aussi avancer, faire ce que le Seigneur nous demande de faire, parce que toutes ces choses ont été écrites à l'avance pour nous encourager à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Et nous sommes, je le crois, bien-aimés, dans le temps de la fin. Et ces deux versets nous parlent de quelque chose de très important. Ils nous parlent de la paix. Et dans Romains chapitre 12, au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et puis, dans Hébreux chapitre 12, au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Alors, nous sommes dans un temps où l'homme est en grande recherche de paix. La paix, il y a énormément de conférences pour avoir la paix dans l'âme. Il y a énormément de conférences pour développer son potentiel, pour développer son image, pour développer l'activité cérébrale, pour développer une image particulière qui va faire croire, en tout cas aux gens, que nous sommes en paix. Tout un tas d'enseignements qu'il y a comme ça sur Internet sont des choses qui sont bien évidemment complètement paganisées. Les pasteurs les reprennent beaucoup d'ailleurs. Beaucoup de pasteurs sont devenus non plus des prédicateurs. Ils ne prêchent plus la croix malheureusement, mais ils prêchent la motivation personnelle. C'est quelque chose que personnellement je dénonce et j'ai ça en horreur même. Le développement personnel, le développement de soi, être bien dans sa peau, être bien dans ses chaussettes, être bien dans sa génération, être bien dans ce monde, c'est complètement contraire à tout ce que Jésus nous a enseigné sur la terre. Et énormément de pasteurs sont d'ailleurs dans cette mouvance. Alors pas tous, bien évidemment pas tous, mais il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce que c'est un message qui séduit énormément. C'est un message qui attire énormément de monde, puisque dans le monde, justement, même les gens qui se disent en paix, quand on gratte un peu, on se rend compte rapidement qu'ils sont en recherche de quelque chose. Et nous sommes tout d'abord des êtres spirituels, et Dieu nous a créés spirituels, et nous sommes aussi des êtres physiques sur cette terre, mais nous avons tous en nous une recherche de spiritualité. Et l'Ecclésiaste le dit, l'homme a été créé, et il recherche sans cesse, en fait, ce qui est immortel. Et l'homme cherche à devenir immortel, il cherche à avoir cette immortalité sur terre parce qu'il veut fuir quelque chose qui est la mort. Il a peur de la mort, il a peur de ce qui peut lui arriver, il a peur d'être subitement surpris par la mort. Et la mort est quelque chose qui est pour beaucoup une inconnue, et l'inconnu fait peur. Alors, les pasteurs, pour certains d'aujourd'hui, qui sont devenus des coachs, ce sont des performeurs, ce sont des gens qui vont apprendre à parler, qui vont apprendre à communiquer, qui vont développer un certain langage. Donc c'est des choses qui sont très marketées, qui sont dans le marketing, et pour essayer d'attirer des âmes dans leur église. Et on voit que l'image est travaillée, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire du tout. Le Seigneur est quelqu'un qui nous veut dans la profondeur avec lui, dans sa présence, dans la profondeur. L'image, l'extérieur, lui importe peu. La preuve, c'est que l'homme, les hommes et les femmes que nous sommes, sont formés de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Donc le corps physique, on sait que le corps n'ira pas au ciel, ni la chair ni le sang n'hériteront du royaume de Dieu. Donc l'enveloppe charnelle, finalement, ne sert pas à grand chose, si ce n'est aujourd'hui contenir notre âme, et lorsque nous sommes convertis, notre esprit avec l'esprit de Dieu dans ce corps. Mais la fin de notre corps, ça sera la poussière, la Bible le dit. Donc entretenir son corps, c'est vrai, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention puisque beaucoup de produits aujourd'hui sont toxiques, effectivement, au poids, etc. Mais il ne faut pas que cela prenne le pas ou le dessus par rapport à le temps que je vais passer à prier, à passer du temps avec mon Dieu. Sinon, ça veut dire que mon corps devient une idole. Et nous sommes malheureusement dans un temps de communication, dans un temps d'image. D'ailleurs, nous sommes à la télé, les moyens que nous avons aujourd'hui depuis quelques dizaines d'années dans le monde, on voit au niveau de la télé, quand on regarde un peu au niveau générationnel, on voit, mes grands-parents ont connu tout d'abord la radio, ensuite l'image est arrivée avec la télé en noir et blanc, l'image est devenue en couleur dans les années 50-60, et puis aujourd'hui on voit qu'on peut être sur Internet et diffuser comme ça en direct des émissions. Donc c'est quand même assez extraordinaire, en quelques dizaines d'années, les grandes avancées qu'il y a eu au niveau technique. Et on se rend compte que l'image est devenue extrêmement importante aujourd'hui, extrêmement importante. Et je parle de l'image tout d'abord parce que le monde veut nous renvoyer une image de paix. Nous avons trois types de paix dans la parole. Et nous avons la paix avec Dieu tout d'abord, la paix avec soi-même et ensuite la paix avec les hommes. Et dans Romains chapitre 12 au verset 18, on nous parle de ce type de paix. Je relis le verset. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » En tant que chrétien, on peut parfois se tromper par rapport à la recherche de la paix. C'est ce que je voudrais aborder ce soir avec vous. Et le monde, pour revenir à l'image, le monde dans lequel nous vivons nous renvoie une image. Nous pouvons être déstabilisés en tant que chrétien par rapport aux choses qui nous entourent. Aujourd'hui, être chrétien, beaucoup vont dire c'est pas facile, c'est pas évident. Je dirais oui et non. Tout dépend de ce en quoi tu as cru. Et ce à quoi tu t'attaches. Je dirais que le monde, effectivement, veut nous mettre dans des cases. Satan aime faire des cases. Les blancs d'un côté, les noirs, les maghrébins, les chinois, ça c'est une case par rapport à la couleur de peau, par rapport à la race. Une autre case qui est très difficile aussi, qui est très complexe à briser, c'est la culture. La culture aussi, telle ou telle culture, avec des différenciations, avec des choses qui s'opposent aussi parfois, qui provoquent même des guerres, la culture. Et il y a maintenant les pays, avec les frontières. Dans les pays, il y a encore les régions, avec les différentes langues, les patois locaux, etc., les différentes localités. Donc on se rend compte que le monde n'est rempli que de cases. D'accord ? Et Satan, qui s'est amusé à créer ces cases, pour que chacun puisse s'identifier, l'identification, c'est-à-dire l'image que chacun a par rapport à sa vie. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 1 et 2, nous voyons Dieu créer l'homme, Adam, à son image, donc à la base, à l'origine. C'est pour ça que Jésus disait souvent, lorsqu'on lui posait une question, notamment par rapport au divorce et au remariage, il disait « à l'origine, au commencement ». C'est important de revenir à l'origine, de comprendre comment et pourquoi l'homme a été créé. Nous avons été créés à l'image de Dieu, pour un but précis, dominer sur la terre, écraser Satan, les démons, par rapport au péché. D'accord ? Ce que Satan est en train de faire sur terre, Satan a été, comme vous le savez, dans Genèse chapitre 1, entre le verset 1 et 2, donc la terre a été créée, Dieu crée toute chose parfaite. Et ça n'est pas écrit, mais en tout cas, nous voyons au verset 2 de Genèse chapitre 1er, que la terre ensuite a été informe et vide. Et Dieu ne crée pas le chaos, il ne crée pas le désordre. Satan a été jeté sur terre, et avec un tiers des anges, comme nous le dit la parole, et il a créé le désordre sur la terre, le chaos. Il n'y avait plus la paix, en fait, sur terre. Et Dieu a créé l'homme. D'accord ? Il n'est pas venu lui-même mettre la paix sur terre, mais il va faire une créature. Et il va maintenant lui-même venir dans cette créature. Et au travers de cette œuvre, nous devions, à l'origine, dominer la terre pour écraser les œuvres de Satan. Et ensuite, remplir la terre, se multiplier, et que ce jardin d'Éden puisse se propager et remplir toute la terre. C'est ce qui était prévu à l'origine. Et malheureusement, nous voyons une chose qui vient troubler ce plan, c'est le péché. Quelqu'un qui vit dans le péché et qui se dit en paix, n'est pas dans la paix de Dieu. Il n'est pas en paix avec Dieu. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons trois types de paix. La paix, premièrement, avec le Seigneur, avec Jésus, être en paix avec Jésus. La paix, c'est lié aussi à un état, d'accord, par rapport à soi-même, un état, et qui est lié bien évidemment à Dieu. Et nous avons aussi la paix par rapport aux hommes, au monde qui nous entoure. Et il y a une hiérarchie par rapport à ces différents types de paix. La paix la plus importante, c'est bien évidemment celle avec Dieu, avec notre Créateur. Parce que celui qui n'est pas en paix avec Dieu est tout simplement perdu. Celui qui n'est pas en paix avec Dieu, ça veut dire qu'il est dans le péché, dans la désobéissance avec Dieu, et il est perdu. Et s'il reste dans cet état-là, il sera ensuite rejeté de Dieu. Parce que personne ne peut pécher et aller au ciel. Le deuxième type de paix dépend, la paix par rapport à soi-même, dépend aussi de notre état d'âme. Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, mais leur état d'âme est instable, donc ils vont avoir du mal à se positionner. Du coup, ils vont vouloir être en paix avec Dieu, mais en même temps aussi être en paix avec les hommes, le troisième type de paix. Et ce troisième type de paix est, je dirais, le type de paix qu'il faut en tout cas le moins important. C'est vrai que nous devons faire des efforts par rapport aux gens qui nous entourent, mais on ne peut pas être en paix avec des gens qui ne veulent pas être en paix avec nous. C'est impossible. Et on peut se tromper, encore une fois, en tant que chrétien, et chercher. Alors, il y a différents cas, hein. Il y a différentes manières de rechercher la paix avec les hommes. On peut chercher à faire plaisir à l'autre. On peut vouloir être gentil. Or, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, la gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. On ne doit pas être gentil. On doit être juste. Nous devons nous sanctifier, être dans la sainteté. Nous devons être fidèles au Seigneur. Nous devons regarder au Seigneur. Et c'est lui, ensuite, qui gère notre vie. Donc, on ne peut pas être gentil avec les gens pour gagner leur paix. Parce que les gens nous amèneront à pécher. Donc, on ne peut pas faire cela. Et c'est pour ça que cette paix est d'abord, premièrement, à rechercher avec Dieu. Parce que le monde est troublé. Jésus dira, on va prendre Jean chapitre 14 pour reprendre les propos de Jésus. Dans Jean chapitre 14, Jésus va répéter deux fois, enfin en tout cas plusieurs fois, cette phrase. Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et lorsque on va un petit peu plus loin, au verset 27, Jésus dira, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Donc on voit qu'il y a deux types de paix. Il y a la paix que procure Dieu et la paix que peut procurer ce monde. Alors quel type de paix, premièrement, on va voir ça, quel type de paix procure le monde ? Le monde va essayer de nous mettre dans une forme de sécurité liée au matériel. Notamment, nous sommes en Europe. Et nous voyons les biens matériels autour de nous, il faut avoir un travail, il faut avoir toutes sortes de choses, on peut avoir toutes sortes de contrats, de mutuelles, la sécurité sociale, on peut avoir toutes ces choses, on peut avoir plein d'assurances vie, assurance maison, assurance décès, on peut avoir toutes sortes de mutuelles, toutes sortes d'assurances pour essayer de faire en sorte que nous soyons en paix, de nous mettre dans une forme de paix par rapport au monde qui nous entoure et par rapport aux différents aléas de la vie. Donc, si il y a une tempête, ma maison est cassée ou ma maison brûle, hop, il y a une assurance, je suis remboursé. Si il m'arrive un accident de la route et que je suis handicapé, hop, il y a des assurances, je suis remboursé et ça va m'aider à avancer dans la vie. Je ne dis pas que ces choses sont bonnes ou mauvaises, je ne parle pas de ça. Je dis juste que le monde nous amène à être dans une position, à être dans une fausse paix par rapport à lui, par rapport au monde. Parce que ce que promet le monde ne peut pas tenir ses promesses. Pourquoi ? Parce que le monde est dominé par Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Celui qui domine actuellement ce monde, c'est Satan. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien et chrétienne, il faut que nous comprenions que nous n'avons aucune paix à obtenir de ce monde. Aucune. Aucune. On va le voir par la suite. Ce monde ne peut pas venir et apaiser mon cœur. Si j'ai des problèmes, le seul qui peut apaiser mon cœur, c'est Jésus. Ce n'est pas ce monde. Et nous sommes donc dans une société de consommation. Certains vont trouver la paix dans la débauche. Certains vont trouver la paix dans la fornication. Certains vont trouver la paix dans toutes sortes de méchancetés, toutes sortes d'œuvres pécheresses. Quand on regarde bien, les gens qui se disent en paix, souvent, sont dans le péché. Ils écoutent leur propre âme, les désirs de leur chair, d'accord ? Les désirs de leur chair, et ils essayent de les assouvir. Et ils sont dans une course perpétuel du péché, en permanence, et le péché augmente dans leur vie, augmente dans leur vie. Ils arrivent à un niveau de fausse paix, de paix du monde, et ils vont continuer à pécher pour obtenir encore une fausse paix un peu plus importante, etc., etc. Et c'est la course au péché, et en vérité, ils n'ont pas la paix. Ils ne sont pas stables, ils n'ont pas la paix. Ils vont tester toujours plus, ils vont toujours aller plus loin, et la finalité de tout ça, s'ils ne se repentent pas, s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils ne seront jamais délivrés, jamais libérés, et ils mourront, et malheureusement, ils iront en enfer. Et c'est grave. C'est pour ça qu'en tant qu'enfants de Dieu, n'oublions pas que nous sommes aussi des personnes qui devons montrer que la paix de ce monde n'est pas la vraie paix. Il y a une paix profonde. Il y a une véritable paix qui, malgré les combats, malgré les choses qui sont dites sur nous, qui nous rassurent, qui vont aussi rassurer les gens autour de nous. Et ça, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est la présence de Dieu. D'accord ? Et on peut voir ici que Jésus, dans Jean chapitre 14 va dire aux disciples que votre cœur ne se trouble pas, parce que l'homme tel que nous sommes aujourd'hui, à cause du péché, nous sommes troublés. Lorsque Adam a péché, Adam et Ève, en désobéissant à Dieu, lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la première chose qu'ils ont eu comme état, c'était des pécheurs. Mais qu'est-ce que cet état a provoqué ? La désobéissance envers Dieu a provoqué plusieurs choses. Ils ont été nus, ils se sont cachés, ils ont eu peur. Donc, ils ont été troublés. Troublés. Et lorsque Dieu, maintenant, est venu auprès d'Adam et Ève pour parler avec eux, ils étaient troublés. Et ça me fait penser aussi à Israël dans le désert, lorsque Israël va sortir dans le désert et ils vont être amenés par Moïse, ils vont sortir d'Égypte, ils vont être amenés par Moïse dans le désert, Dieu va les amener au pied de la montagne et il va vouloir parler, Dieu va vouloir communiquer, Yahweh va vouloir communiquer à son peuple. Et quelle est la réaction d'Israël ? Ils sont troublés, ils ont peur de Dieu, ils n'ont pas la paix par rapport à Dieu. Et le seul qui est en paix par rapport à Dieu, à ce moment-là, c'est Moïse. Alors que Israël ne comprend pas le langage de Dieu, Israël est troublé par ce qu'il voit sur cette montagne, les éclairs, le vent, le tonnerre, toutes ces images fortes, ça les a impressionnés. Et comme ils ne faisaient pas attention et ils n'avaient pas pour objectif de connaître ce Dieu, ils n'en avaient rien à faire finalement, eh bien ils ont eu peur et ils ont été troublés. Et ils ont voulu revenir à quoi ? À une fausse paix. C'est pour ça qu'Israël réclamait toujours l'Égypte. Alors qu'ils ont souffert plus de 4 siècles en Égypte, on se rend compte que la moindre tribulation qu'ils ont pu vivre en parcourant ce désert, conduit par Dieu, la nuit et le jour, flamme de feu la nuit, ils ont été nourris par Dieu, avec la manne, avec le rocher et à différents endroits, Dieu a assouvi leur soif. Ils ont vu des miracles extraordinaires dans le désert. Et pourtant, ce peuple n'avait aucun intérêt pour Dieu. Aucun. Aucun. Dieu n'était qu'un distributeur de bénédictions. Dieu n'était qu'un distributeur de choses charnelles pour pouvoir assouvir leurs besoins terrestres, malheureusement. Et en tant que chrétien, ça doit nous parler. 1 Corinthiens 10 nous parle de cela. Paul écrit dans l'Épître aux Corinthiens que Israël est passé par le désert et qu'au travers de cette histoire, nous devons être enseignés, nous, aujourd'hui, chrétiens. Et nous ne sommes pas meilleurs qu'Israël dans le désert, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, les gens, partout, sont en recherche de paix. On voit des gens qui viennent pour la prière et ils sont dans le péché. Et on se rend compte qu'ils recherchent une paix. Ils ne sont pas en paix parce qu'ils pratiquent un péché. Alors ils pensent qu'en venant nous voir, ici, eh bien ils vont obtenir une forme de paix. Alors que mon frère, ma sœur, si tu es dans le péché, je ne peux même pas dire frère et sœur d'ailleurs, parce que si tu es dans le péché, nous ne sommes pas frères et nous ne sommes pas sœurs. Tu n'es pas ma sœur, tu n'es pas mon frère si tu es dans le péché. C'est une réalité. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la réalité. Parce que celui qui aime Dieu doit se sanctifier. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, nous devons vivre comme Jésus a vécu. Nous devons nous sanctifier. Et si tu es dans un péché, tu peux te repentir. Tu cherches la paix, tu tournes à droite, à gauche. Tu cherches auprès des hommes, tu cherches auprès des femmes. Tu cherches auprès de véritables enfants de Dieu, peut-être que tu connais. Sache que ce soir, tu peux avoir cette paix dans ta vie. Repends-toi. Repends-toi sincèrement. Arrête le péché. Dieu t'en donne la capacité. Tu peux arrêter. Dieu va s'occuper de toi, mais fais confiance au Seigneur. Arrête de mettre ta confiance dans ce monde, dans les hommes, dans le système de ce monde, parce que ce monde ne t'apportera que des problèmes. Et la finalité de ce monde, c'est la destruction. Ne mets pas non plus, ne vis pas ta vie chrétienne, ou n'essaye pas de vivre ta vie chrétienne au travers d'une autre personne, au travers d'un pasteur, au travers d'une personne en tout cas qui est chrétienne ou qui se dit chrétienne. N'essayez pas de vivre votre vie au travers des autres. Vous n'obtiendrez pas la paix. Vous serez toujours déstabilisé. Dans votre vie, il y aura toujours des problèmes et vous ne saurez pas y faire face. Ne faites pas comme Israël dans le désert. Lorsque Dieu a voulu les rencontrer, ils ont préféré fuir par peur au lieu de faire confiance au Seigneur. Alors que Dieu avait fait de grands miracles, la première chose que Dieu a fait pour Israël dans le désert, c'est les sortir d'Égypte et ils ont traversé le Jourdain. Et dans 1 Corinthiens 10, on voit que c'est le baptême. Et ensuite, la mer s'est refermée derrière eux. Ils ont continué à marcher. Et il fallait qu'il y ait cette rencontre dans le désert. Pourquoi ? La Bible nous en parle dans Ésaïe. Dieu dit à Israël, je t'amènerai de nouveau dans le désert afin de parler à ton cœur. Voilà ce que Dieu cherche, notre cœur. C'est pour ça qu'ici, dans Jean chapitre 14, Jésus va dire « que votre cœur ne se trouble point, parce que la paix, elle se trouve dans le cœur. C'est ici qu'elle est située. Maintenant, si Dieu n'est pas dans ton cœur, forcément, tu n'as pas la paix avec Dieu. Tu n'es pas en paix avec Dieu. Et Jésus, je vais continuer à lire Jean chapitre 14, je reprends à partir du verset 1er pour bien comprendre les promesses ensuite qu'il nous donne. Et pourquoi il nous demande, il nous dit en tout cas, de faire en sorte que notre cœur ne se trouble pas. Il faut qu'on lui fasse confiance. Et là, on parle de la foi. Nous devons avoir la foi en Jésus, lui faire confiance afin de ne pas être troublé. Je reprends Jean, chapitre 14, à partir du verset 1er. « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et ça, c'est personnellement un passage qui m'encourage énormément. J'aime énormément Jean chapitre 14. J'aime toute la parole de Dieu, parce que toute la parole de Dieu est magnifique. Mais j'aime bien lire ce chapitre. Pourquoi ? Parce qu'il me ramène à la promesse que Jésus me fait à moi, personnellement, qu'il me prépare une place au ciel, une demeure avec lui. Et regardez le monde chrétien d'aujourd'hui. Le monde chrétien d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens mondains, ne font que faire rentrer justement, je dirais, Satan, d'accord, avec le monde, le marketing, le rap chrétien, toutes ces choses. Les églises font rentrer des choses du monde au sein de leur église, au sein de leur vie chrétienne, pour essayer justement d'amener des âmes dans leurs assemblées. Et c'est terrible. Et quand on écoute beaucoup, en tout cas ces grands pasteurs qui ont pignon sur rue, sur différents grands sites chrétiens, francophones et anglophones, la plupart des promesses qu'ils font est liée à la terre. La terre. Viens au Seigneur Jésus, tu seras béni. Ils oublient que dans Matthieu, Jésus nous parle de la bénédiction, il nous parle aussi des persécutions. Nous serons bénis si nous sommes persécutés. Nous serons bénis si nous sommes rejetés. Ça, c'est la véritable bénédiction. Parce que si tu veux savoir si tu es vraiment un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, si ton caractère est vraiment brisé, si tu as vraiment Jésus dans ta vie, si tu es vraiment dans la sanctification par rapport à ta vie chrétienne, le monde te rejette, malgré toi. Les gens te rejettent malgré toi. Ils peuvent discuter un peu avec toi, mais tu sens que c'est un peu compliqué avec eux. Je ne parle pas des gens qui créent des problèmes à cause de leur mauvais caractère. Ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui peut-être sont chrétiens, qui ne sont pas forcément encore matures, qui ont un problème de caractère, qui sont caractériels. Ces gens-là, parfois, provoquent des problèmes. Et je ne parle pas de ça. Je parle des véritables enfants de Dieu qui aiment les gens aussi, qui essayent d'aimer, qui sont vraiment dans cette charité dont nous parle la parole de Dieu, cet amour profond, sans intérêt, véritable, et qui essayent d'être en paix, comme nous le dit Romains chapitre 12, avec les gens qui les entourent, mais qui comprennent aussi que parce que nous aimons premièrement Dieu, et nous voulons être d'abord en paix avec lui, et bien au travers des choix que nous ferons ensuite, on ne pourra pas être en paix avec les hommes, c'est impossible. Parce que la majorité des hommes, c'est écrit, rejettent Dieu, ses enfants et son œuvre. Le monde rejette Dieu, parce que Satan ne veut pas de Dieu et ne voudra jamais de Dieu. Satan a été vaincu à la croix, il sait que sa fin est proche, donc il a peu de temps, comme nous le dit la parole, il rôde comme un lion rugissant, ne sachant pas qui il va dévorer. Donc Satan a peu de temps et ses démons, donc ils œuvrent et ils vont se déverser toute leur haine dans le monde pour que justement les hommes et les femmes qui malheureusement ne connaissent pas la vérité, ne connaissent pas Jésus, eh bien ces gens-là s'attaquent aux véritables enfants de Dieu. Et Jésus va faire cette promesse et on voit le monde chrétien qui fait des promesses par rapport à la terre. Viens dans mon assemblée, tu verras, mon pasteur est un bon prédicateur, il prophétise sur tout le monde, matin, midi et soir, prophétie. En veux-tu, en voilà. Et des prophéties qui ont parfois ni queue ni tête, et soirée spéciale, onction prophétique, etc., élargir sa vision prophétique, tous ces discours en fait, alors que le Saint-Esprit agit comme il veut. On peut aller quelque part, prêcher simplement, et des choses se passent sans forcément qu'il y ait des mouvements physiques, mais en esprit il se passe des choses. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le Seigneur, parce qu'il est d'abord Seigneur, il règne, c'est lui qui domine. Et toutes sortes de promesses que font ces fausses églises, ces faux serviteurs de Dieu, qui sont pris dans une course effrénée au miracle, aux guérisons, au sensationnel, à la richesse personnelle. Il faut s'enrichir. Maintenant, il faut impacter le monde. Il faut faire de grandes choses dans ce monde. Il faut bâtir de grands bâtiments, comme vous le savez. Il faut avoir de grands ministères. Et on entraîne les gens. On entraîne les gens. Et j'ai rencontré la semaine dernière dans le sud de la France un couple. Je salue d'ailleurs les frères et sœurs du sud-ouest de la France. Vraiment que Dieu vous garde. Merci pour vos encouragements. Vous m'avez beaucoup encouragé en tout cas. Et que Dieu en tout cas vous garde, vous fortifie. Et un couple témoignait par rapport à leur vie. Ils ont eu des problèmes financiers à un moment. Ils ont fait je ne sais pas combien de dizaines, 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, dans leur assemblée dans une ville du sud-ouest de la France. Ce sont des gens qui étaient extrêmement impliqués dans leur assemblée. Ils ont eu des problèmes financiers pour diverses raisons. Et l'Église, à un moment, les a mis sur le banc de touche, plusieurs se sont mal comportés avec eux, et ça a été vraiment un combat terrible pour eux, ils ont beaucoup souffert, et je leur posais la question, mais est-ce qu'une seule fois, les gens qui vous calomniaient, les gens qui se comportaient mal avec vous, est-ce qu'une seule fois, l'assemblée dans laquelle vous étiez, vous ont donné de l'argent? On fait des courses pour subvenir à vos besoins, parce que ces personnes avaient 5 enfants. Et la réponse, ça a été non. Voilà l'Église d'aujourd'hui. Voilà l'état de l'Église d'aujourd'hui. On vend du rêve, on vend du faux, on vend le monde. Voilà ce qu'ils vendent. Ces gens-là, ce sont des loups, ce sont des ravisseurs, ce sont des mercenaires, ce sont des gens qui sont là, comme le dit la parole, pour leur ventre. Ne tombez pas dans le piège de la gentillesse. Ça ne sert à rien de vouloir être cool ou gentil. C'est pas de Dieu. Il faut appeler un chat un chat. Vous savez, Dieu n'a que deux manières de voir les choses. Et avec la paix, c'est la même chose. Soit on est en paix avec Dieu, soit on l'est pas. Soit on est chrétien, soit on l'est pas. Soit on est dans la sanctification, soit on est dans le péché. Il n'y a que deux états pour le Seigneur. Et la vision, c'est pour ça que Satan travaille beaucoup l'image. Il travaille énormément l'image. Vous voyez, beaucoup de gens renvoient une certaine image. Je vous parle aujourd'hui, il y a une image qui est renvoyée chez vous. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi, ça n'est pas mon problème. Personnellement, ce n'est pas mon problème. L'image que je peux donner de moi, ce n'est pas mon problème. Et ça ne doit pas être le problème des chrétiens. On doit être ce qu'on est, point barre. Ce que Dieu veut que l'on soit. Obéir à Dieu, c'est le principal. Mais l'image, ça communique des choses. Et c'est ce à quoi travaille Satan aujourd'hui, dans son monde. Dans ce monde, il travaille l'image, l'enveloppe, parce qu'il ne peut travailler que ça. Satan n'a aucune profondeur. Satan peut singer Dieu, mais au bout d'un moment, il est limité. Il ne peut pas copier la charité, l'amour de Dieu. Il ne peut pas copier cela. Satan n'y arrivera pas. Lorsqu'on voit les 10 plaies qui ont été jetées en Égypte, effectivement, Pharaon qui représente avec le serpent au niveau de sa couronne qu'il portait sur la tête, on voit qu'il représentait, Pharaon représentait en fait le roi du monde, de l'époque, hein, de l'Égypte, et très puissant, avec de grands sortilèges, de grands sorciers, des savants, de l'occultisme. Et lorsque les 10 plaies ont frappé l'Égypte, et que Yahweh, Dieu, a frappé l'Égypte, ils ont pu copier les 3 premières, mais ensuite ils étaient limités. Ils ont été limités par ce qu'il se passait. Et on se rend compte que Satan travaille l'image. Il travaille l'image, les pasteurs travaillent leur image, les costumes. Il travaille en fait la manière, encore une fois, de parler, la manière de communiquer. On voit des gens qui, avant de faire des photos ou avant de faire des vidéos, on va travailler le grain de la peau pour effacer en fait toutes les impuretés que l'on peut voir qui sont naturelles. Vous voyez ? Certains vont faire, pourquoi pas, de la manucure. Ils vont faire tout pour avoir une image correcte. Pourquoi ? Pour renvoyer quelque chose de positif. Quelque chose qui va attirer le regard, qui va séduire en fait. C'est de la séduction. Satan est un séducteur. Le serpent a séduit Ève, qui a aussi amené Adam dans le péché. C'est la séduction. C'est cela aussi. Et quelqu'un qui est très attaché à son image, malheureusement, n'ira pas en profondeur avec Dieu. Il y aura une forme de paix par rapport au monde, parce que le monde, du coup, renverra des choses à cette personne. Une femme qui se maquille, qui veut être belle, qui fait des photos remplies de séduction. Oui, sur les réseaux sociaux, là, les femmes là, qui font ça, là. Même les hommes aujourd'hui, on voit des hommes qui sont en marcelles, pectoraux gonflés, etc. Vous allez avoir de jolis commentaires sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir de beaux commentaires de gens qui ne sont pas chrétiens. Tu es belle. Oh, que tu es jolie. Oh, que tu es beau. Oh, que cette coiffure te va bien. Oh, ces lunettes là que tu as choisies te vont bien. Waouh, la veste que tu as mis là, vraiment, c'est beau, ça te va bien. toutes ces choses, ça renvoie à quoi ? C'est vide. C'est vide. On parle de l'enveloppe charnelle. On parle de la chair. Quelque chose qui retournera la poussière, qui sera détruit. Voilà la fausse paix qu'amène le monde, liée à l'image encore une fois. Et à cause de l'image, on peut avoir peur aussi de notre réputation. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que chrétien, on doit comprendre. Les gens peuvent parler sur nous, en bien ou en mal, c'est pas notre problème. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi ? Seigneur, que penses-tu de moi ? Je sais, je suis faible, Seigneur. Je sais, j'ai encore beaucoup de défauts, Jésus. Je le sais. Mais je veux passer du temps avec toi. Je veux méditer ta parole, Seigneur. Et je veux que tu m'aides à comprendre comment changer. Moi, je n'en ai pas la force, Seigneur. Mais toi, tu peux m'aider. Tu peux me donner cette capacité à changer. Tu peux me donner la sagesse, l'intelligence pour pouvoir changer, Seigneur. Tu peux briser mon caractère, Seigneur. Tu peux briser mon orgueil, Jésus. Mais pour cela, je dois l'accepter. Accepter. Accepter donc de ne pas être en paix avec tout le monde. Dans Romains chapitre 12, on revient à ce passage de Romains chapitre 12. Dans ce passage, il est précisé que si il est possible, Romains chapitre 12, au verset 18, si il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et c'est très difficile, encore une fois, d'être en paix avec les hommes. Avec Dieu, c'est difficile aussi. Mais là, ça dépend de nous. Être en paix avec les hommes, c'est là la différence. J'entends parfois des questions ou des personnes qui viennent nous voir et qui nous demandent « Mais comment fait-on ? J'ai des problèmes avec ma famille, j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec mon frère et ma sœur, j'ai des problèmes dans l'assemblée où je suis, j'ai des problèmes au travail. » Et c'est vrai, toutes ces choses sont réelles. Il ne faut pas se mentir. Il faut être, réaliste par rapport à ces choses. C'est normal. La vie, c'est un problème. La vie, ce sont des problèmes. Ce sont des difficultés. C'est difficile, la vie. C'est vrai. Maintenant, enfants de Dieu, nous avons Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes, tous. Maintenant, ça va dépendre de ce que nous faisons. Et ici, on le voit, la paix qui est liée aux hommes dépend de nous, mais dépend aussi des hommes autour de nous, des personnes autour de nous. Ça veut dire quoi ? Je n'avais pas compris ce passage, je complète avec Hébreux chapitre 12, et qu'on a lu tout à l'heure, 12-14, rechercher la paix. Le Seigneur m'a montré dans ce passage, je n'avais pas vu le mot rechercher. Je n'avais pas compris ce mot-là. Jamais j'avais saisi que c'était la recherche de la paix. Et je n'avais pas non plus saisi, parce que je m'attardais plus sur la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Et je m'étais dit, mais Seigneur, c'est vrai que je m'applique à la sanctification. Je veux te plaire. Et ta parole nous le dit dans Lévitique. On le voit, 19.1 et dans Lévitique 11.45, on le voit, Dieu dire, Yahweh, je suis saint, donc vous soyez saint. La sanctification, la sainteté de Dieu, cette recherche pour plaire à Dieu. On a des défauts, on peut faire des erreurs, mais on aime Dieu, donc on se repent, on accepte d'avoir tort, on accepte de s'être trompé, on demande pardon. Et si on a fait du mal aux gens, on va s'humilier devant eux, on va leur demander pardon, même s'ils ne l'acceptent pas, même s'ils ne le veulent pas. On y va, parce que d'abord, on aime Dieu, et d'abord, on recherche la paix avec Dieu. Et cette première partie de verset, rechercher la paix, je n'avais pas compris qu'il y avait une recherche par rapport à la paix. Et je disais, mais Seigneur, dans ces cas-là, rechercher la paix, c'est pas évident. C'est pas toujours évident, avec les gens qui nous entourent. C'est pas facile. Avec les combats qu'on peut avoir au travail, avec la famille, qui parfois ne sont pas convertis, et qui peuvent nous combattre. Et c'est très difficile, c'est vraiment pas évident. Et le Seigneur me faisait comprendre que pour rechercher la paix et la sanctification sont deux choses qui marchent ensemble. Et on va aller dans la parole, on va prendre Genèse chapitre 13. Donc Genèse chapitre 13, à partir du verset 5. Lot aussi, qui marchait avec Abram, avaient des brebis, des bœufs et des tentes, et le pays ne pouvait les porter pour demeurer ensemble, car leur bien était si grand qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble, de sorte qu'il y eut querelle entre les bergers du bétail d'Abram et les bergers du bétail de Lot. Or, en ce temps-là, les Cananéens et les Phéréziens habitaient dans le pays, et Abram dit à Lot, « Je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Ici, nous voyons donc Abram, qui est avec son neveu Lot, qu'il considérait comme son fils. Abram et Sarai n'avaient pas encore d'enfants, ils n'avaient pas non plus leur nouveau nom que Yahweh leur a donné, Abraham et Sarah. Et il arrive une situation où chacun a ses bergers, chacun a ses serviteurs, chacun a ses troupeaux. Et lorsqu'ils arrivent à des points d'eau, il y a des disputes, des querelles entre les serviteurs. Et Dieu va permettre aussi cela, afin que Abram prenne une décision importante. Afin d'éviter les querelles, il va décider de se séparer. Et parfois, en tant que chrétien, on ne comprend pas que la recherche de la paix avec Dieu, je dis bien avec Dieu, implique une séparation avec les hommes. Et la séparation, c'est la sanctification. Dans le mot sanctification, kadosh, kodesh en hébreu, la sainteté, Dieu est saint, Dieu est celui qui sépare. Dieu est celui qui sépare. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Dieu est Dieu. Dans sa sainteté, le mot qu'on voit apparaître la première fois dans la Bible, Kodesh, c'est lorsque Dieu va sanctifier le septième jour. Le septième temps, après avoir créé l'homme, la femme, et le septième jour, il va y avoir ce temps de repos, et ce temps de repos va être sanctifié. C'est la sainteté. C'est la consécration, c'est la séparation d'avec le Seigneur, c'est la sainteté, la pureté avec Dieu. Ça, c'est la sanctification. Donc, rechercher la paix selon Dieu, c'est aussi être capable, donc, de se sanctifier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être dans une situation où tu n'es pas en paix avec Dieu parce que tu n'es pas capable de faire un choix, parce que tu es dans les sentiments par rapport à telle ou telle personne. Les sentiments humains, l'âme. C'est terrible, hein ? Que votre cœur ne se trouble point. Ce soir, que ton cœur ne se trouble point. Pas parce que je le dis, mais parce que Jésus te fait la promesse que si tu lui es fidèle, que si tu fais les bons choix, que si tu te sanctifies, tu arrives à te séparer de ce qui t'amènera à pécher. Parce que si Dieu veut que l'on se sépare, c'est pour éviter le péché. Parce que les gens ne nous veulent pas du bien. Certaines personnes ne nous veulent pas du bien. Des gens de nos familles ne nous veulent pas forcément du bien. Donc il faut prendre une distance avec eux. Et ça n'est pas facile. Ça n'est pas évident. Ce sont des décisions parfois qui sont dures à prendre. Mais nous devons le faire. Pourquoi ? Pour rester en paix avec Jésus. C'est très important. C'est très important. On voit des chrétiens, parce qu'ils se connaissent depuis 10-15 ans, lorsque un va commencer à dévier, l'autre ne va pas accepter de se sanctifier, c'est-à-dire de se séparer d'avec cette personne. Et c'est triste. Et je crois que cette personne qui ne se sépare pas n'a plus vraiment la paix par rapport au Seigneur. Quand c'est comme ça, là, Dieu nous presse. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui aime les gens tièdes. Soit le chaud, soit le froid. Soit tu es enfant de Dieu, dans ces cas-là, tu es lumière. Donc tout doit être dans la lumière. Mais si tu commences à chercher des zones d'ombre dans la lumière, tu t'écarteras de la lumière et tu iras dans les ténèbres, là où règnent Satan et les démons. Et là, c'est la perdition. Et Dieu ne veut pas ça. Donc Dieu nous avertit. Dans la lumière, on est en paix avec Dieu. On est en paix. Ça nous protège. Dire les choses clairement, ça nous protège. Dire la vérité, ça nous protège. C'est une protection. C'est dur parfois de dire aux gens, il y a telle chose. Ou même d'entendre quelqu'un venir nous dire aussi. Parce que c'est mettre à la lumière aussi parfois notre propre attitude, nos propres faiblesses. C'est une bonne chose. Merci Seigneur pour les frères et sœurs que tu as mis autour de nous et qui sont capables de nous parler aussi. De la part du Seigneur, pour nous avertir. C'est une grâce. Et ça nous permet de pouvoir être transformés par le Seigneur et de rester dans la paix de Dieu. De continuer à rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc la conséquence est terrible. Quand on n'est pas en paix avec Dieu, on ne voit pas Dieu. Quand on n'est pas dans la sanctification, on ne voit pas Dieu. Ça, tout le monde est d'accord. Sanctification, sanctification. Oui, mais qu'est-ce qu'implique la sanctification? La séparation d'avec le péché, d'avec les œuvres mortes, d'avec ceux et celles qui veulent essayer de nous amener en dehors du chemin de la vie qui est Jésus-Christ, en dehors de la parole. Dans ce cas-là, je dois me séparer d'avec ces personnes. Et c'est pas évident. Si mes parents me demandent de faire quelque chose, mais que cette chose est un péché par rapport à Dieu, je dois être capable, en tant qu'enfant de Dieu, de dire non à mes parents. Ce n'est pas que je ne les aime pas, c'est que ni mon père, ni ma mère ne vont m'emmener au ciel. C'est pas eux qui peuvent m'amener au ciel, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul et unique chemin pour aller au ciel. Mon père et ma mère, je les aime, mais ils peuvent être dans l'ignorance et ne pas savoir ces choses. Donc en tant que chrétien, je ne peux pas leur dire oui, amen à tout, c'est faux. Parce que sinon, beaucoup tombent dans le péché à cause de ça, à cause d'un bon ami. À cause de la peur de perdre ton travail, tu acceptes de mentir. Tu acceptes de te positionner, de te mettre dans une position qui t'amène à pécher. Tu couvres le péché. Et toi-même, tu pèches. Tu as plus peur et tu as plus de crainte pour ton patron, parce qu'il te donne la paye à la fin du mois, que pour ton Dieu Tout-Puissant, qui t'a donné le souffle de vie et qui peut te le retirer comme ça. Est-ce que le patron est supérieur à Dieu, à Jésus ? Je ne crois pas. Et j'en suis sûr même, il ne l'est pas. Parce que Dieu est Tout-Puissant. Alors parfois, pour que nous restions dans cette paix, nous devons prendre nous-mêmes la décision de rester dans cette paix, nous devons rechercher la paix. Donc ça veut dire que je dois être dans une forme active pour rechercher cette paix. Ça implique une action de ma part. Donc des décisions à prendre. Et combien de chrétiens ne prennent pas de décisions ? Combien de chrétiens se positionnent en victime ? Combien de chrétiens ne supportent pas la confrontation avec d'autres personnes ? Combien de chrétiens ont peur qu'on parle mal d'eux ? Parce qu'ils se positionnent clairement en tant que croyant en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, mort à la croix, ressuscité le troisième jour, le seul et unique chemin pour aller au ciel. Combien ont peur par rapport aux hommes ? Et j'avoue, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est sûr. Mais avec Jésus, on y arrivera, je le crois. Avec Jésus, nous y arriverons. Pourquoi ? Dans Genèse, chapitre 13, on voit que Dieu veut faire comprendre quelque chose à Abraham. Abraham avait besoin de cette séparation. Pourquoi ? À cause des querelles. Les querelles allaient laisser Abraham, allaient prendre du temps en fait à Abraham. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque la querelle est là, la querelle va occuper l'esprit d'Abraham et occuper aussi l'esprit de Lot. Il va être occupé, plus occupé à régler les problèmes liés aux querelles entre les bergers les uns et les autres. Et il y avait beaucoup de monde à l'époque, beaucoup de troupeaux. Donc Abraham aurait passé beaucoup de temps à essayer de faire la paix avec Lot, d'accord, et avec les hommes. Et il aurait passé beaucoup moins de temps donc à rechercher la paix avec son Dieu. Alors Dieu a dit, Abraham, il y a un choix à faire. C'est l'homme ou c'est moi ? Et il a fait comprendre à Abraham qu'il devait y avoir une séparation avec son neveu. Même si ça coûtait cher à Abraham, il l'a accepté. Il est parti en paix avec son neveu, il lui a dit, des fois c'est pas possible de partir en paix, on se sépare comme ça, il n'y a pas le choix. Quand c'est une question de vie ou de mort, on se sépare comme ça, il n'y a pas le choix. Mais quand on peut discuter avec la personne, on explique les choses et on prend du recul. Et c'est ce que Abraham a fait. Et suite à ça, Dieu va lui parler. Au verset 14, et Yahweh dit à Abraham, donc tout de suite après la séparation, et Yahweh dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord, le midi, l'orient et l'occident, car je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois. On voit que, et c'est aussi symbolique, lève les yeux, regarde au Seigneur, regarde à la promesse de Dieu. Parfois, nous cherchons tellement la paix avec les hommes qui nous entourent, les hommes et les femmes qui nous entourent, qu'on en oublie Dieu. Nous sommes exclusivement focalisés, concentrés sur les choses de la terre. Et on en oublie les choses de Dieu. Et quand Dieu veut nous parler, notre esprit est tellement occupé là, nos pensées sont tellement prises par tous ces problèmes qu'on n'entend plus la voix de Dieu. On n'entend plus Dieu nous parler. On perd le discernement. On devient charnel. Et on perd quoi petit à petit ? La paix avec Dieu. Rechercher la paix. C'est une recherche. Et lorsque l'on va un peu plus loin dans Exode, on voit que Le peuple d'Israël s'est multiplié en terre d'Égypte. Et on se rend compte qu'ils vont crier à Dieu, ils vont pleurer pour réclamer un sauveur, un libérateur. Préfiguration de Christ, de Jésus, de Yeshua à Machia. Yahweh sauve, le Christ. Et Dieu va envoyer Moïse. Et on voit que ce peuple a quitté. Et comment Dieu a fait ? Il a fait en sorte que Pharaon perde la paix. Que le peuple, les Égyptiens, ont perdu leur paix. Ils n'avaient plus la paix par rapport à ce peuple. Eux qui dominaient Israël depuis 4 siècles, eux qui avaient asservi ce peuple, les réduisant à des fabricants de briques pour servir uniquement la volonté d'un faux dieu, Pharaon, et de son peuple. Ils ont voulu se débarrasser de ce peuple. Ils ont voulu l'écraser. Ils l'ont asservi pendant plus de 4 siècles. Eh bien, pour faire sortir ce peuple, qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va briser la paix chez Pharaon et chez les Égyptiens. Il va les oppresser. Il va les oppresser avec ses 10 plaies. Au point où les Égyptiens vont laisser partir Israël en leur donnant même toutes sortes de biens. De l'or, de l'argent, tout ce qu'ils pouvaient. La Bible me dit que lorsque Israël a quitté l'Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens. Il n'y a que mon Dieu qui. Il n'y a que notre Dieu qui peut faire ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un grand miracle. Quelle délivrance! Et pourtant, malgré cela, Israël, dans le désert, ne va pas rechercher la paix avec Dieu. Ils vont toujours être contre Dieu. Et en tant que chrétiens, nous devons penser aussi à cela. Nous devons nous poser, nous devons prier Dieu. Tu recherches peut-être la paix, mais ce soir, sache que, pose-toi la question. Quelle paix recherches-tu ? Tu recherches la paix avec ta famille ? Tu l'auras pas forcément. Tu recherches la paix avec tes collègues au travail ? Tu ne l'auras pas forcément. Ça ne dépend pas de toi. C'est écrit dans Romains chapitre 12. Si cela dépend de toi, peut-être que cela ne dépend pas de toi. Tu recherches la paix avec tes voisins, tu recherches la paix avec des personnes que tu connais, tu recherches peut-être la paix dans ton assemblée locale. Sache que tu n'obtiendras pas ces choses. Tu peux prier pour cela. Ce n'est pas le plus important. Recherche d'abord la paix avec ton Dieu, avec ton Créateur. Et lui-même s'occupera de toi. Et tu verras que dans le trouble, il te donnera des directives et tu sauras quoi faire. Comment faire, comment agir. Là où avant tu parlais, Dieu te dira « tais-toi ». Et les gens verront le changement. Et tu verras que les gens changeront peut-être d'attitude par rapport à toi. Là où tu venais toujours au travail pour ramener un verset, au point où tu étais moralisateur en permanence, peut-être que Dieu va te dire « tais-toi ». Arrête de parler. Produis des bonnes œuvres. Conduis-toi dignement. Arrête de parler. Les paroles, c'est facile. Les actes, c'est ça que les hommes et les femmes retiennent. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons poser des actes forts. Et c'est comme ça que les gens nous reconnaissent. Beaucoup de gens parlent de Jésus aujourd'hui. Mais qui sont les véritables enfants de Dieu ? Qui sont les véritables enfants de Dieu sur cette terre ? Parce qu'il y a du mélange, de partout. Les actes, ça c'est fort. Peut-être que ta famille te met la pression par rapport à la culture. Peut-être que des amis te mettent la pression parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que toi tu leur dis par rapport à la Bible. Prie Dieu, cherche la paix avec Dieu et tu verras que lorsque tu reverras ces personnes, tu seras en paix, tu seras calme. Même si on te crie dessus, tu seras calme. Même si on t'insulte, tu seras calme. Pourquoi ? Parce que tu connais ta position, tu connaîtras ta position par rapport à Jésus, par rapport à Dieu. Tu connaîtras ton identité et tu seras serein. Calme, en paix avec Dieu par rapport à ces situations. Et ensuite, Dieu te dira quoi faire. S'il doit y avoir séparation, Dieu te le dira. Dieu te le fera sentir. Dieu te parlera clairement. Maintenant, si tu cherches encore la paix avec les hommes, sache que Dieu peut peut-être te parler parce qu'il avertit, mais tu n'entends pas. Pourquoi ? Parce que ton esprit là, est occupé par la pensée des hommes, par la pensée de faire la paix avec les hommes. Or, nos pensées, les yeux de nos cœurs et nos pensées doivent être dirigés vers le Seigneur pour que lui-même nous communique ses souhaits et ses directives pour notre vie. Donc, on voit aussi dans Exode que Dieu va mettre, vraiment, il va retirer la paix. Et nous avons dans 1 Samuel aussi, un autre exemple, 1 Samuel chapitre 5. C'est un passage, je ne vais pas tout lire. Mais je vais résumer 1 Samuel chapitre 5, Et à partir même 1 Samuel chapitre 4, vous pourrez lire chez vous. Et je vais juste lire le début de 1 Samuel chapitre 4, verset 1er. Or, la parole de Samuel arriva à tout Israël, car Israël sortit en bataille pour aller à la rencontre des Philistins. Ils campèrent près d'Ébénézer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui en tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Quand le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël dirent « Pourquoi Yahweh nous a-t-il battus aujourd'hui par les Philistins? Ramenons de Silo l'arche de l'alliance de Yahweh et qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya donc à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de Yahweh des armées qui habitent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Et il arriva que, comme l'arche de Yahweh entrait dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le bruit de ces cris de joie et ils dirent « Que veut dire ce bruit et que signifient ces grands cris de joie dans le camp de ces Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de Yahweh était arrivée dans le camp. Les Philistins eurent peur car ils disaient « Dieu est entré dans le camp » et ils dirent « Malheur à nous car il n'en a pas été ainsi auparavant. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ?» Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Philistins, prenez courage et agissez en hommes, de peur que vous ne soyez esclaves des Hébreux comme ils vous ont été asservis. Agissez en hommes et combattez. Amen. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Ici, nous sommes au temps où Samuel est formé par le souverain sacrificateur Élie, qui a deux fils, Ophni et Phiné, qui se comportent de manière inadmissible avec dans le tabernacle, avec l'arche de Dieu notamment. Ils vont avec des femmes, ils couchent avec des femmes, ils réclament toutes sortes de biens. Ce sont vraiment les fils, en tout cas d'Élie, sont vraiment deux hommes corrompus, que Dieu rejette complètement. Et on voit à ce moment-là que Israël part en guerre, parce qu'une des notions de la paix, sur la terre en tout cas, c'est aussi ne pas être en guerre. La paix, c'est le contraire de la guerre. Et Israël, à cette époque, était combattu par les Philistins et différents peuples sur son territoire. Et les Philistins vont se présenter à eux, ils vont vivre une grande défaite. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller charnellement chercher l'arche de Dieu, et ils vont ramener l'arche, et c'est très intéressant, ils vont ramener l'arche auprès des soldats d'Israël, et là, ils vont tous être heureux de cela. Ils vont être dans une grande joie. Tout comme dans certaines assemblées aujourd'hui, des prédications sont faites, des paroles sont lancées, et le peuple semble heureux. Les gens semblent heureux. Les gens semblent en paix. Mais tout ça n'est qu'une image. C'est creux, c'est vide. Parce qu'ici, Dieu, certes, il y a l'arche, mais il n'y a pas Dieu. Dieu ne va pas agir au travers de l'arche. Ils ont pris l'arche pour une idole. Ils n'ont eu aucun respect par rapport à la présence de Dieu par rapport au Seigneur, par rapport à la personne même de Dieu. Ils prennent l'arche comme si c'était une idole, comme si, grâce à l'arche, ils allaient enfin vaincre leurs ennemis. Ils n'ont même pas consulté Dieu pour faire cela. Alors que pour chaque chose, il fallait consulter Dieu. Pour déplacer l'arche, il fallait consulter Dieu. Il fallait que les gens qui s'occupent du tabernacle soient sanctifiés pour le Seigneur. Et ça n'était pas le cas à cette époque-là. Alors c'est juste une assemblée de pécheurs qui vont invoquer Dieu, et finalement qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont se réjouir de ce qu'ils pensent être Dieu venir les voir. Ils vont se réjouir de cela. Les Philistins vont d'ailleurs l'entendre. Les Philistins vont entendre cela, et les Philistins vont avoir peur. Mais quand je lis, c'est d'ailleurs intéressant, puisque au verset 8, on voit « Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. » C'est arrivé jusqu'aux oreilles des Philistins. Le combat que Dieu a mené avec les 10 plaies contre l'Égypte, ces grands miracles qu'il a produits pour sortir Israël de l'Égypte, les Philistins connaissaient ces choses. Donc ils connaissaient aussi ce Dieu. Israël n'avait aucun respect pour ce Dieu. Mais les Philistins pourtant se disaient « si c'est ce Dieu-là, là, ça va être compliqué pour nous. On va avoir de gros problèmes. Parce qu'on sait ce que ce Dieu a fait aux Égyptiens. » Et Israël, eux, sont complètement détachés dans leur relation avec le Seigneur. Aucune relation. Et par la suite, les Philistins vont se motiver et ils vont quand même aller combattre. Ce sont des hommes, ils n'ont pas Dieu avec eux, mais ils vont quand même accepter de combattre. Et qu'est-ce qui se passe au verset 10? Les Philistins donc combattirent et Israël fut battu et chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, 30 000 hommes de pied d'Israël périrent. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Et c'est terrible, l'arche de Dieu va être prise. Elle va être prise. C'est terrible. L'arche, c'était comme le cœur de Dieu. L'arche, elle était dans le Saint des Saints, un endroit très particulier par rapport au tabernacle. C'est comme si on avait pris le cœur de Dieu, symboliquement. Et les Philistins vont réussir à prendre cette arche. Et ce que j'aime ici, c'est que, au lieu, Israël n'avait pas à cœur de protéger l'arche. Ils ont exposé l'arche, parce qu'ils ont voulu utiliser Dieu. Et c'est la plupart, malheureusement, c'est une grande mentalité qu'on retrouve chez les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne cherchent qu'à utiliser Dieu pour vaincre, pour faire des combats. Ils viennent nous voir parce qu'ils voient que Dieu agit et ils veulent faire la même chose qu'Israël a fait avec cette arche. Prendre l'arche de Dieu et l'utiliser pour vaincre Satan. Le problème, c'est que Dieu, qui représente ici, qui est avec l'arche, l'arche représente le cœur. Aujourd'hui, enfant de Dieu, nous devons avoir Jésus dans notre cœur. Et c'est comme ça que nous pouvons vaincre les tentations. Pas autrement. Or, les gens font comme si Dieu était une idole et ils veulent l'utiliser pour la délivrance. Parce que certains ne dorment pas la nuit. Des démons viennent les agiter. Alors ils viennent et ils disent « Impose-moi les mains, prie pour moi. Ton Dieu va pouvoir me guérir. » Mais Dieu, l'objectif, c'est pas de nous guérir. L'objectif de premier de Dieu, c'est de nous sauver. C'est de nous amener dans sa paix. Dans cette notion d'amour, de salut de notre âme. Et Israël, finalement, s'en fichait de Dieu. Et même, malheureusement, a été vaincu par les Philistins. Ont perdu l'arche, qui était vraiment très très symbolique. C'était la chose la plus chère qu'Israël pouvait avoir à cette époque. Et qu'est-ce que Dieu va faire ensuite? Je vais résumer. C'est très intéressant. L'arche va être trimballée de ville en ville, et chez différents peuples. Et Dieu n'a pas besoin ni de toi, ni de moi pour se défendre. Et il y a notamment dans 1 Samuel chapitre 5, avec Dagon et Asdod, et ils vont mettre en fait l'arche dans la maison de Dagon, et Dieu lui-même va intervenir, et il va frapper ses peuples. Israël ne cherche même pas à récupérer l'arche de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va revenir en Israël. Et ça, c'est extraordinaire. Quel amour a ce Dieu! De lui-même, il va d'abord briser cette statue en la décapitant, en coupant les mains de Dagon, là, qui était représenté comme une sirène avec une tête d'homme, avec un corps de sirène, qui était le dieu de la fertilité des Philistins et des différents peuples à cette époque. C'était le dieu qui amenait la prospérité, donc liée notamment aux cultures. Et l'arche de Dieu, avec la présence de Dieu, Dieu lui-même va se défendre. Et lui-même va revenir en Israël. Parce qu'il va tellement briser la paix dans la vie de ses peuples, qu'ils vont se passer l'arche de ville en ville, et ils vont tous être frappés de différents maux, notamment des hémorroïdes. Et c'est extraordinaire de voir ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Non seulement ils vont renvoyer l'arche, mais ils vont renvoyer l'arche avec de l'or. Ils vont pas faire... Les peuples là ont tellement, finalement, été frappés par le Seigneur qu'ils vont renvoyer l'arche. Dieu arrive à mettre une telle pression sur ces peuples qui ne sont plus en paix, ils vont devoir se débarrasser de l'arche et la renvoyer en Israël. Et on ne voit personne, en tout cas en Israël, peut-être Samuel, mais en tout cas personne en Israël venir essayer de récupérer l'arche. À cette époque, c'est l'apostasie. Et nous vivons un temps comme cela, où les gens veulent simplement utiliser Dieu, mais n'en ont rien à faire de Dieu. Et Dieu, dans son amour, est quand même venu nous voir avec Jésus-Christ. Il est venu en tant qu'homme, dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, pour nous témoigner son amour, et pour nous dire qu'il nous aime, et qu'il a besoin de nous, et qu'il ne veut pas que notre cœur se trouble, mais qu'il souhaite que nous soyons en paix avec lui. Et il y a différents passages comme cela où on voit que le Seigneur peut provoquer des moments dans notre vie, autour de nous en tout cas, de troubles, avec les hommes qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons en paix avec lui. Et pour être en paix avec lui, nous ne devons pas, encore une fois, avoir la tête remplie de pensées par rapport aux uns et aux autres. Il faut savoir faire des choix. Et le choix premier que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Passer du temps avec lui, dans sa présence, rechercher la paix et la sanctification. Nous allons continuer. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens, chapitre 5. Au verset 3. Quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, mes frères, Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. Amen. Et nous voyons ici, nous sommes en paix et en sûreté. Quand ils diront, qui ? Le monde, les gens qui nous entourent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les gens, le monde, les nations sont en train de s'unir. Ils sont en train de fabriquer des paix. Il y a des choses qui se passent dans le monde, des guerres ici et là, l'islam qui fait des guerres ici et là, différentes religions qui combattent ici et là, différents mouvements politiques. Tout ce bruit-là ne doit pas nous atteindre en tant que chrétiens. Parce qu'on sait que le monde cherche une fausse unité, une fausse paix. Lorsqu'ils diront paix et sûreté. Et nous, justement, en tant que chrétiens, nous devons être interpellés à cela. Les Nations Unies, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est cela. C'est faire en sorte que tous les pays y adhèrent pour pouvoir former une seule nation, une seule voix, un seul peuple et bientôt un seul dirigeant, l'Antichrist ou l'Antéchrist. Et il dominera avec une fausse paix le monde. Et si nous ne sommes pas à la recherche de la paix avec Dieu et de la sanctification, nous pouvons être séduits par cet homme et par ses discours. Il pourra séduire jusqu'à même les élus, si cela était possible. Donc c'est grave. Ça veut dire que le pouvoir de la séduction qu'a Satan dans ce monde est fort aussi. Et si déjà je n'arrive pas à me sanctifier, à rechercher la paix avec mon Seigneur, par rapport à ma famille, par rapport à mon travail, mais comment vais-je résister au jour où tout va s'accélérer? Au jour où tout va être chamboulé dans le monde, où il faudra adhérer à je ne sais pas comment ça va se passer exactement, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on doit toujours être prêt, on doit travailler à cela. Mais un jour, une fausse unité va être sur la terre. Et ceux qui ne voudront pas faire partie de cette fausse unité, de cette unité satanique, diabolique, de cette paix démoniaque, ceux qui ne voudront pas adhérer à ce projet seront persécutés et tués. Alors, si déjà aujourd'hui tu ne résistes pas à ton patron, à ton collègue de travail, à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta sœur, à ton ami d'enfance, si tu n'arrives pas à résister à ces personnes, mais comment vas-tu faire pour résister aux soldats en armes qui viendront te chercher? Comment vas-tu faire face à la pression du monde qui s'accroît de plus en plus sur nous, sur nos vies? Comment vas-tu faire? Tu crois que tu vas résister? Est-ce que tu recherches la paix avec Dieu ou la paix avec les hommes? Galates, chapitre 1, verset 10. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta parole, Seigneur. On va prendre Galates, chapitre 1, au verset 10. Que nous dit la parole ici? Car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Arrête de vouloir défendre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. D'ailleurs, on est tous hommes et femmes de Dieu. Quand on dit ce mot-là, c'est comme s'il y avait des gens qui étaient supérieurs à d'autres. Nous sommes enfants de Dieu, point barre. Frères et sœurs, si nous sommes véritablement en Dieu. Car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Ceux qui recherchent plus la paix avec les hommes, avec ce monde, que rechercher la paix avec Dieu, ce sont des hommes charnels qui ont essayé de se justifier les uns les autres. De défendre son pasteur, défendre le prédicateur. Laissons Dieu nous défendre, laissons Dieu nous justifier. La Bible le dit, on l'a lu tout à l'heure. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous n'avons rien à faire. Paul dit qu'il prêchait entre une bonne et une mauvaise réputation. Est-ce qu'on va échapper à cela? Non. Jésus lui-même, il avait une bonne et une mauvaise réputation. Est-ce qu'on va échapper à cela? Non. On ne doit pas regarder à cela. si tu es charnel, si tu recherches la paix avec les hommes en permanence là, plus que celle avec Dieu, tu vas te trouver dans des situations, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas défendre ton assemblée locale. Alors que peut-être que les assemblées locales, il n'y en a aucune qui est parfaite, aucune. Il y a des problèmes partout. Parce qu'aucun homme n'est parfait sur cette terre. Seul Jésus-Christ a réussi son passage sur terre parfaitement. Il l'a fait en tant qu'homme. Et il devait le faire pour son sacrifice à la croix, pour nous permettre nous-mêmes de rentrer dans cette promesse du salut de nos âmes. Il a été parfait de sa naissance jusqu'à sa mort. Et il est encore parfait aujourd'hui, parce qu'il est Dieu. Mais il a surmonté les désirs de la chair pour pouvoir le faire. Et il nous donne aujourd'hui cette capacité de pouvoir le faire, avec son Saint-Esprit en nous. Ceux qui recherchent plus la paix avec les hommes que la paix avec Dieu se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas se décider. Ils n'arrivent pas à prendre position pour la vérité. On ne prend pas position pour un homme ou une femme. On prend position pour la vérité. Seulement, si tu prends position charnellement, si tu ne connais pas ton identité en Christ, si tu fais les choses pour faire, un jour ou l'autre, tu te tromperas. Et tu vas voir que tu n'es pas en paix déjà premièrement aujourd'hui, mais un jour ou l'autre dans ta vie, ça va être compliqué et tu verras que tu n'as pas la paix finalement, la vraie paix, parce que la paix c'est avec Dieu. Et même en tant qu'enfant de Dieu, alors car est-ce les hommes, je reprends le verset, car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu, effectivement, les hommes qui se prêchent eux-mêmes. Et même en tant que chrétien, nous devons faire attention, nous devons avoir aussi cet équilibre. Pour avoir cette paix, nous devons passer du temps avec Dieu. Donc faire attention par rapport à la vie avec la famille, la femme, les enfants, on doit être présent aussi avec eux. On doit être présent aussi quand on travaille tout ça, il y a aussi le travail, il faut être sérieux aussi dans ces choses. Mais il y a des gens aussi qui sont dans un extrême, ils sont dans une forme d'activisme dans la vie chrétienne. Tout le temps la vie chrétienne, la vie chrétienne, la vie chrétienne, tout le temps à œuvrer à droite à gauche, des martes. Mais pour avoir la paix, il faut être comme Marie, il faut aller au pied du Seigneur. C'est là qu'on a la paix. Marthe, c'est bien, elle s'agite. Marthe, elle est heureuse quand charnellement, tout est OK. Quand charnellement, elle a fait à manger, elle a bien fait ce qu'elle devait faire, elle s'était donné des objectifs charnels, personnels. Ça n'était pas les objectifs de Dieu. Ça n'était pas ce que Dieu voulait à ce temps précis-là. Marie était au pied et Jésus a dit, elle a choisi la bonne part. Toi, Marthe, tu t'agites à droite à gauche. Quelle part avait-elle à ce moment-là? Elle avait juste la satisfaction charnelle d'avoir produit quelque chose pour Jésus. Mais ce n'est pas ce que Jésus souhaitait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et beaucoup sont comme ça aussi. Galates 1, verset 10, « Car est-ce les hommes que je prêche, ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Certes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. » Beaucoup se disent serviteurs, mais cherchent à plaire aux hommes. Beaucoup se disent servir Dieu, mais ils ont un intérêt à poser certains actes et à faire certaines choses. Et la paix et la sanctification concernent aussi, parlent de cette notion de plaire. Si je ne cherche plus à plaire aux autres, la paix que j'ai avec Dieu me suffit. Je ne vais pas chercher à plaire aux autres, à être gentil avec eux, à essayer d'être en paix avec eux. Tant que je le peux, oui, mais si ça ne dépend plus de moi, dans ces cas-là, si je dois me séparer, je me séparerai. Parce que je veux rester en paix avec Jésus. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Ce que je veux, c'est le salut de mon âme, premièrement, et ceux de ma famille, ensuite. Et obéir au Seigneur, jusqu'à ce que l'on meure, ou que Dieu nous enlève. Et Paul avait compris ces choses, et c'est pour ça qu'il disait sûrement cela ici. Paul a été beaucoup décrié, Paul a aussi été abandonné par des compagnons d'œuvre, il a été méprisé, et il a été trahi, et nous allons vivre ces choses-là aussi. Pour certains, on les vit déjà. C'est normal, ça fait partie de la vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est comme ça. Pourquoi? Pour rester dans le désert au contact du Seigneur. Pour rester dans le désert au contact de Dieu. Le monde est comme un désert pour nous. Le monde, c'est un désert. On traverse ce désert. Mais je préfère être me rendre compte que je suis dans un désert que de prendre des scorpions ou des serpents comme étant des bénédictions. Beaucoup sont dans le désert. Tout le monde est dans le désert. Ce monde est pourri. Ce monde, c'est de la poussière. Il n'y a rien qui va durer. Les belles voitures, les belles maisons, tout ça détruit. Il suffit d'une tempête. La maison a beau être belle, elle s'écroulera. Il suffit d'une montée des eaux, on perd tout. Il suffit d'une tornade qui passe sur un endroit, il n'y a plus rien. Il suffit d'un volcan et tout est poussière. Tout redevient poussière. Il n'y a rien dans ce monde. Ce monde est un désert. Alors on fait des châteaux de sable. C'est des châteaux de sable, les maisons. Les voitures, c'est pareil, c'est du sable. Toutes ces choses, c'est du sable. Mes vêtements, c'est du sable. Au bout d'un moment, ça pourrit. Ça retourne à la poussière. Nous sommes dans un monde, tous, qui est un désert. Mais personnellement, je veux avoir cette vision par rapport au Seigneur. Dieu peut te conduire dans ce désert. Dieu nous conduit dans ce désert. Colonne de feu la nuit, colonne de nuée le jour. Nous avons soif, il nous donne à boire. Et d'abord, c'est la parole de Dieu. Nous avons faim, il est le pain de vie. Le pain, c'est la parole de Dieu. Il nous conduit dans ce désert. Pourquoi ? Pour travailler notre cœur, travailler notre caractère, pour que nous soyons en paix avec lui. Parce que la finalité, il n'est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. On se retrouve face à Dieu. En paix avec les hommes, en guerre avec Dieu. Et ce n'est pas ça qu'il faut rechercher. Je préfère être en guerre, ou que les hommes plutôt soient en guerre avec moi, je ne souhaite la guerre à personne. Mais c'est le cas pourtant, parce que spirituellement, il y a un combat. Et dans certains pays, il y a la persécution physique. Il faut s'en rendre compte aussi. C'est pas évident. Il faut s'en rendre compte. Mais mieux vaut être avec des gens ou dans un endroit où les gens nous font la guerre et être en paix avec Dieu que le contraire. Parce que si je suis dans un endroit où je suis bien installé avec les hommes, je suis bien avec eux, souvent, c'est le péché qui est là. Et du coup, c'est inimitié contre Dieu. Séparation avec Dieu. Et c'est la pire chose qui puisse arriver. Parce qu'après, malheureusement, c'est l'enfer. Et pour finir, on va reprendre 1 Thessaloniciens. Pour conclure. Donc ce soir, nous avons parlé de la paix. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et on a pu comprendre, je l'espère en tout cas, par la grâce de Dieu, merci Seigneur pour ta parole, que nous devons d'abord rechercher la paix avec Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Nous devons entretenir cette paix. Et pour cela, nous devons abandonner certaines choses. Individuellement, personnellement, si tu es dans le péché, abandonne ton péché. Fléchis les genoux là où tu es, demande pardon au Seigneur. Et Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Si tu dois te repentir publiquement, la honte ne tue pas. Le péché, oui. La honte ne tue pas. La honte, c'est rien. Le péché, ça tue et ça emmène à la mort éternelle. N'aie pas honte. Si tu dois demander pardon publiquement, fais-le. Mais décide de ne plus pécher. Demande à Dieu et il t'aidera. Sois en paix avec lui. Recherche cette paix avec ton Dieu. Et ici, nous avons un encouragement dans l'épître, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, à partir du verset 16. Soyez toujours joyeux. Néhémie 8, 10, dans la première partie, dernière partie du verset, la Bible nous dit « Car la joie de l'Éternel est votre force ». J'aime beaucoup cela, j'aime beaucoup ce verset, Néhémie 8, verset 10, « Car la joie de l'Éternel est votre force ». La joie d'être en Jésus-Christ, la joie d'être sauvé, la joie de savoir que mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, en tant que ses enfants, il nous a préparé une place au ciel. Il nous a préparé une maison, une habitation, où nous serons pour l'éternité. Et on pourra aller de maison en maison, aller visiter les uns et les autres. Il y aura la joie au ciel, une grande joie, et il y aura la paix. La sûreté, la paix, c'est la sûreté. C'est cette assurance que rien ne peut nous arriver, rien. On ne peut pas obtenir cette paix sur terre. Mais quelle joie au ciel. Pas de mort, pas de maladie, pas de trahison. L'amour de Dieu, la puissance dans l'amour de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Quelle joie. Et on ne va pas s'ennuyer au ciel. Soyez toujours joyeux. Parce que beaucoup de chrétiens ne le sont pas, malheureusement. Verset 17. Priez sans cesse. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce pour toute chose, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Rendez grâce en toute chose. Il m'arrive quelque chose de bien, je rends grâce à Dieu. Il m'arrive quelque chose qui me fait mal, je rends aussi grâce à Dieu. C'est l'Éternel qui donne, ou plutôt Yahweh qui donne et Yahweh qui reprend. Que Yahweh soit béni. N'éteignez pas l'esprit. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de paix, le Dieu de paix, alléluia, veuille vous sanctifier entièrement. Si je recherche la paix avec Dieu, il va m'aider à me sanctifier. Je recherche la paix avec Dieu, il m'amènera dans sa paix et automatiquement, il m'amènera à me sanctifier. Que le Dieu, au verset 23, que le Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est pourquoi il fera ces choses en vous, en moi. Il veut nous sanctifier entièrement. Pour que nous soyons sanctifiés entièrement, sachons que nous devons rechercher la paix du Dieu de paix. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu en tout cas pour sa parole. Merci Seigneur. Et je lui rends toute la gloire encore ce soir. Passez une bonne soirée dans sa présence. Et ensemble, recherchons la paix avec le Seigneur. Merci Seigneur. Amen.